Chapitre 66. 25 décembre 2017. Nina ouvre les yeux. Romain dort profondément, la tête enfouie sous son oreiller. Ils se sont endormis dans la chaleur l'un de l'autre. Des restes du déjeuner de Noël sur les tables de nuit et la vieille desserte. Il doit être environ 17h. Les chats somnolent sur les fauteuils, guettant Bob, étendu comme un bienheureux sur la couette. Nina se lève sans faire de bruit. Elle rassemble ses pensées. Appeler Simone et monter au refuge pour organiser son départ. Mais avant, elle prend le carnet à dessin que Romain lui a offert la veille, saisit un fusain et commence à dessiner son profil. De lui, elle ne voit qu'une partie du visage, les cheveux en bataille. Elle retrouve le désir sous ses doigts. Grâce au mouvement de sa main, elle se reconnecte à son corps, à sa sensualité aussi. Son poignet frôle le papier. Ses yeux passent des lignes du visage de Romain à celles qu'elle trace. Elle est dans un plaisir manifeste qu'elle n'a pas ressenti depuis des années, celui de retranscrire une individualité à travers son nez, sa bouche, ses yeux, son front. Elle inscrit Noël 2017 au bas de la feuille et la pose près de lui sur le lit. Nina repense à ce que Simone lui a dit ce matin à propos de l'adoption de Canley et de la nuit d'amour qu'elle avait passée avec son apprenti danseur. « Tu sais, Nina, on croit, et puis on se trompe. »« 100 ans que je n'ai pas fait une valise », se dit-elle en regardant ses vêtements. Elle a gardé celle de sa grand-mère Odile, la moche en simili-cuir en carton avec laquelle elle était partie à Saint-Raphaël en 1990. Puis elle l'avait refaite en septembre 2000 pour la première de « Des enfants en commun », la pièce de théâtre d'Adrien. Elle aurait pu prendre une des valises que lui avait offerte Emmanuel, plus grande, résistante, à roulettes, mais elle tenait à porter celle de sa grand-mère pour partir. Quand Nina est arrivée gare de Lyon, elle l'a laissée dans une consigne. À l'intérieur, les restes de 6 ans de vie commune avec Damam, rangés et repassés. C'était la première fois qu'elle venait à Paris. Depuis la gare de Lyon, son plan de métro à la main, elle a pris la nouvelle ligne 14 pour se rendre à Madeleine. Elle est montée à pied jusqu'à la rue des Abbesses en coupant par la place Blanche, a dû demander son chemin à 2 reprises et trouver au passage que le Moulin Rouge était minuscule. Un décor de cinéma. Rue des Abbesses, elle s'est installée au Saint-Jean, le café situé juste à côté du théâtre. Un soir de première, elle savait qu'Adrien serait présent et qu'il viendrait peut-être boire un verre ou retrouver des amis au comptoir. Il était 18h lorsqu'elle lui a envoyé un SMS. Passe au café Saint-Jean, rue des Abbesses. J'ai fait déposer une surprise pour toi. Durant 2 heures, elle avait scruté la rue, les passants, les clients, sursautant à chaque fois qu'une nouvelle ombre apparaissait derrière la porte. À 20h, elle se présentait au guichet du théâtre sans avoir reçu la moindre réponse d'Adrien. Nina s'est dit qu'il devait être dans les coulisses avec les comédiens, qu'il n'avait pas son téléphone sur lui, qu'il se retrouverait plus tard, qu'elle lui dirait autour de 23h et d'une coupe de champagne « J'ai quitté la Comelle. J'aimerais rester à Paris. Est-ce que tu peux me planquer chez toi le temps que je me retourne ?» Adrien allait être heureux, soulagé. Nina pensait souvent à cette phrase qu'il avait glissée à son oreille le jour de son mariage. « Pour toi, nous aurons toujours une voiture neuve avec le plein d'essence. » Depuis le temps qu'il l'attendait. 6 ans avaient passé entre le jour où les garçons étaient partis et cette première au théâtre. Elle avait mis 6 longues années à quitter Emmanuel. Et il avait fallu qu'il parte en Australie pour qu'elle trouve le courage de se sauver. Elle n'avait rien dit à personne, pas même un coup de téléphone à ses beaux-parents. Emmanuel était capable de tout, surtout du pire. Et le temps qu'il revienne en France et réalise qu'elle n'était plus là, Adrien trouverait une solution pour la cacher quelque temps. Il avait des relations à présent. Rue des Abbesses, en voyant son reflet dans les vitrines, Nina s'était dit qu'il fallait maigrir, arrêter de boire tous les jours et de se bourrer d'hormones. Et surtout se remettre à dessiner, et peut-être à chanter. Entre la Comelle et Paris, elle avait rêvé en regardant les paysages défiler. Pourquoi ne pas refaire de la musique? Maintenant qu'il était célèbre et reconnu, Adrien lui écrirait des paroles et elle les chanterait. Et s'ils insistaient un peu, Étienne les rejoindrait. Était-il vraiment heureux à Lyon dans la police? Nina saurait trouver les mots pour qu'il les rejoigne. Qu'ils reforment 3. Ils étaient encore jeunes. La vie, la vraie, allait débuter avec 6 années de retard. Au guichet du théâtre, elle a récupéré le billet réservé la veille par téléphone, marché dans le hall au milieu d'une foule compacte. Portée par la fierté, la joie d'être l'amie de celui dont le nom apparaissait sur l'affiche. Elle appréhendait aussi, n'avait pas revu Adrien depuis le jour où la France avait gagné la Coupe du Monde de football. Elle était en train de faire le calcul. 2 ans, 26 mois exactement, lorsqu'elle a croisé son regard. En 26 mois, ce regard avait changé. Son regard sur les autres, peut-être pas, mais sur elle, si. Il a d'abord rougi, réalisant qu'il s'agissait bien d'elle. Nina, sa Nina. Quelques mètres les séparaient. Il a cherché des yeux avec qui elle était. Étienne, comme un espoir. Emmanuel, comme une évidence. Il a fini par constater qu'elle était seule, mais il n'a pas bougé. N'a pas fait un pas vers elle. C'est Nina qui s'est approchée de lui en souriant. Elle s'est jetée dans ses bras. Elle l'a senti se crisper. Trop d'émotions, la pudeur d'Adrien, son immense timidité. Ils se sont dévisagés, ont échangé quelques mots. « Ça va ?»« Ça va. » »« Tu as le trac ?»« Un peu. » Devant son mutisme, ses mimiques un peu forcées du genre « ce n'est pas le bon moment », ses vêtements trop bien coupés, ses tods neuves et sa coupe de cheveux élaborée, elle a sorti quelques banalités qui n'avaient rien à faire dans cette non-conversation. Comme elle-même n'avait rien à faire dans ce lieu qui tout à coup lui est apparu immense et glacé. Elle a balbutié quelque chose comme « Je suis venue en train, je t'ai envoyé un texto. Bon, je vais m'asseoir, à tout à l'heure. » Il a regardé autour de lui comme s'il vérifiait que personne ne les observait ou qu'il cherchait quelqu'un. Nina n'a pas su interpréter. « À tout à l'heure !» lui a-t-il répondu en la gratifiant d'un petit sourire complice. Le pauvre, il est terrorisé, c'est pour ça qu'il n'est pas comme d'habitude. C'est ce qu'elle s'est dit en prenant place sur son siège. À la fin de la pièce, elle a été une des premières à se lever pour applaudir. Elle était heureuse, avait tout aimé. Le jeu des acteurs, la mise en scène, les mots, les situations, se disant qu'elle reviendrait chaque soir. Elle se souvenait qu'Adrien était allé déjeuner chez son père et qu'il avait découvert son autre famille. 2 frères plus âgés que lui et une belle-mère tombée du ciel. Adrien lui avait téléphoné en ressortant.
« Nina, tu ne peux pas imaginer ce que je viens de vivre. »
Au bout de 10 minutes de conversation, Emmanuel s'était impatienté, commençant à lui faire des signes, désignant sa montre. « Tu pourrais raccrocher !» Alors elle avait fermé les yeux pour ne plus voir son mari et s'était bouché l'oreille gauche avec sa main. Elle avait parlé plus d'une heure avec Adrien. Après, elle s'était violemment disputée avec Emmanuel. Elle avait bu plus que d'habitude pour faire taire la douleur de son corps. Avec l'alcool, elle se radoucissait. Tout le monde se taisait à l'intérieur. Elle transformait l'enfer en faux paradis. 10 minutes d'applaudissements. Adrien possédait un don de narrateur hors pair. La manière dont il avait retranscrit ces quelques heures de sa vie était époustouflante. Les acteurs ont fait monter le metteur en scène et Adrien sur scène. Les applaudissements et les bravos ont redoublé. De voir Adrien parmi ces grandes personnes, Nina s'est laissée submerger par l'émotion. Il y était arrivé. Puis un rideau s'est fermé où la scène s'est obscurcie, elle ne se souvient pas. Il y a eu des voix et les bruits de pas vers la sortie. Nina s'est retrouvée dans le vestibule du théâtre, parmi des inconnus. Personne à qui parler. Elle a attendu Adrien dans un coin, en faisant semblant de s'intéresser aux flyers de divers spectacles. Quand le hall s'est vidé, elle n'a pas osé demander aux derniers employés où se trouvait Adrien. Elle est retournée au Saint-Jean pour l'attendre. Elle a envoyé un dernier SMS. « Je t'attends au café d'à côté. » Son téléphone a sonné. Elle a sursauté. Enfin, il l'a rappelé. Enfin, il allait lui demander de le rejoindre dans les loges, lui présenter les comédiens, costumiers, techniciens. Il fallait qu'elle soit là pour partager leur triomphe. Un numéro de téléphone qu'elle ne connaissait pas. Elle a décroché le cœur battant. « Allô ?»«
C'est toi ?»«
Pardon ?»«
Je ne reconnais pas ta voix. »«
C'est Nina ?»«
Pardon, j'ai fait une erreur, excusez-moi. »
Pourquoi certaines erreurs sont-elles plus cruelles que d'autres ? Nina s'est mordue l'intérieur de la joue pour ne pas pleurer devant tout le monde. Après 2 heures et 4 verres de vin blanc, elle est redescendue à pied à Madeleine, a réemprunté la ligne 14 pour retourner gare de Lyon. Elle a récupéré la valise de sa grand-mère à la consigne. Il était minuit passé. Le prochain train pour Mâcon ne partait pas avant 6h30. Elle a marché dans des rues derrière la gare, a trouvé un hôtel sans étoiles, une chambre simple pour 394 francs. Elle a eu du mal à s'endormir, s'est repassée la soirée en boucle, le téléphone dans la main, attendant un appel d'Adrien. Quand à 4h du matin il a fini par sonner, elle s'est dit, le cœur battant, le souffle court, « C'est lui. Il vient de rentrer chez lui où il avait oublié son téléphone portable, il vient de voir mes messages, il m'a cherché après la représentation. Il va me demander pardon. Il va me demander de le rejoindre chez lui. Il doit être fou d'inquiétude. »
Allô ?
La voix d'Emmanuel, euphorique.
Mon amour, je suis en transit. Je peux pas te parler longtemps. Je t'aime. Je pense à toi. Sois sage.
Et il a raccroché. Au fond, elle était seule au monde. Alors autant être seule au monde chez elle. Autant choisir la facilité. 2 heures après, elle a pris le premier train pour Mâcon. A retrouvé sa maison en fin de matinée. Vider sa valise, ranger ses affaires. Repris Blanc d'Espagne sur son étagère pour y glisser la dernière lettre, celle destinée à Étienne. Et puis non, après tout. Elle a posé Blanc d'Espagne sur sa table de nuit et a décacheté l'enveloppe. Tu rêves ? Lui demande Romain. Nina sursaute, perdue dans ses pensées. Des souvenirs qui refont surface. Romain vient de la découvrir au rez-de-chaussée, une valise ouverte sur la table de la cuisine, le regard tourné vers l'extérieur, comme si elle observait quelqu'un entrer dans le jardin. Il l'embrasse dans le cou. « Tu sens bon. »« Je sens le chien, et accessoirement le chat, » plaisante-t-elle. « Non, accessoirement tu sens moi. » Il lui renifle le cou. « Tu sens le chaud, comme si tu t'exposais tout le temps au soleil. » J'adore ton odeur. Qu'est-ce qui cloche chez toi ? Tout, ironise-t-il. Il s'étire, se fait couler un café. Que fait ce beau mec dans ma cuisine ? S'interroge Nina. Ma cuisine toute pourrie qui n'a pas été repeinte depuis le premier mandat de François Mitterrand. Ça n'existe pas, un type comme ça, dans la vraie vie, surtout dans la mienne. C'est un engin pour d'autres que moi. Les belles, propres et souriantes. Ou alors c'est un cadeau tombé du ciel. Comme dans le mauvais film de tout à l'heure. Demain, le Père Noël va le ramener Fissa dans sa hotte pour l'offrir à une autre gonzesse l'année prochaine. Je crois que je n'avais pas fait une sieste depuis l'école maternelle, dit-il en avalant son café. Il s'approche d'elle et la serre dans ses bras. Elle se laisse faire, sent des armées de fourmis dans son ventre. Elle ne dit rien, ferme les yeux. Il ajoute au creux de son oreille, jamais personne n'avait fait mon portrait. Merci. Au moment où Romain lui souffle ce merci à l'oreille, Nina réentend les mots de Simone. Tu sais, Nina, on croit et puis on se trompe. Je viens de donner un double de clé à la cat-sitter. Une jolie et douce fille qui se prénomme Elisa. Elle est devenue dingue en voyant la bouille de Nicolas. Pourtant, elle est censée avoir l'habitude. Au refuge, des minois comme celui de mon chat, elle en voit chaque semaine. Des gueules cassées, des vieux et des boiteux aussi. Mais cela m'a surprise. Peut-être que les âmes sensibles ne s'habituent jamais à rien. À partir de demain, elle dormira chez moi jusqu'à mon retour. Elle sait que je pars pour une durée indéterminée et que je serai difficilement joignable. Elle sait aussi que durant ce voyage, Nina sera avec moi. Elisa est étudiante. Elle passe son brevet cette année. Elle va au nouveau collège Georges Perec. C'est l'établissement que dirige le type qui couche avec Nina. Enfin, j'imagine qu'ils couchent ensemble. Le dénommé R. Grimaldi, dont j'ai vu le nom écrit au stylo noir sur la boîte aux lettres de la maison dans laquelle elle est entrée la semaine dernière. On n'entre pas chez les gens comme ça à 23h. Surtout que j'ai pris mes renseignements. C'est un type qui vit tout seul. Il s'appelle Romain Grimaldi et, d'après les informations d'un collègue du journal, il aurait été exclu de Marne-la-Coquette pour une affaire de mœurs. Une élève mineure qui aurait porté plainte contre ses agissements. Mais comme personne n'a rien pu prouver, il a été muté, pas viré. Recasé ici, chez les Plouques, loin de la ville. À la campagne, on allait bien s'en contenter. Déjà qu'on a un collège flambant neuf. Est-ce que Nina a le don d'attirer les psychopathes ? J'ai demandé à Elisa comment elle trouvait son proviseur. Elle a paru surprise par ma question. « Sympa », m'a-t-elle répondu. « Juste ça. » Alors j'ai insisté. « Sympa comment ?»« Sympa normal. Je crois que tout le monde l'aime bien au bahut. En plus, il est plutôt beau mec. » J'ai coupé court. Je suis jalouse. Tout ce qui touche à Nina me rend bête et méchante. Elisa m'a demandé ce que je faisais dans la vie. Je lui ai expliqué les traductions et les piges. « Vous traduisez quelle langue ?»« L'anglais. »« C'est bien, ça. Un forfait de 15 € par jour, ça vous va ?» m'a-t-elle demandé. « Oui, parfait. » Quand j'aurai repris les cours début janvier, le soir, j'apporterai mes repas. « Vous avez un micro-ondes ?»« Oui. » »« Je peux vous poser une dernière question ?»« Oui, bien sûr. » »« C'est un choix d'être avec personne le jour de Noël ?»« Choix complètement assumé. » »« Ok. » Sinon, vous pouvez venir manger à la maison ce soir. M'en fait une soupe à l'oignon pour tout le voisinage. C'est gentil, mais je vais me coucher de bonne heure. Une fille qui m'invite pour Noël sans me connaître s'occupera forcément bien de mon chat. En fermant mon sac, je me suis dit aussi qu'il faut que je prévienne le journal. Je suis censée être de permanence jusqu'au 2 janvier, date à laquelle le pigiste que je remplace rentrera de congé. Je vais mentir, raconter qu'il faut que je me fasse opérer de toute urgence. Un cas de force majeure. Je ne l'ai pas entendu pénétrer chez moi. Ni le bruit du moteur, ni la porte d'entrée. Louise m'enlace par derrière. Je reconnaîtrai son odeur entre mille. Son souffle dans mon cou. Joyeux Noël. Ça va ? Mon frère va mourir. Tu sais qu'on part tous les trois demain ? Oui. Tu veux boire quelque chose ? Oui. Tu dors ici ? Non. Je préfère être à la maison demain matin quand Marie Castille va découvrir qu'Étienne est parti. Et puis, il faudra aussi que je gère mes parents. Ma pauvre petite maman. Tu vas leur dire la vérité ? Oui, je n'ai plus envie de m'encombrer de mensonges. Et pour Valentin, ce sera mieux, plus clair. Il est sur le porte-bagages. Son père pédale vite. L'enfant s'accroche à son t-shirt. Un truc en coton blanc à l'effigie de Jim Morrison. Qu'il portera durant des années. Le dos de son père, ses cheveux au vent. Le premier souvenir de lui. De cet homme grand, fort et beau. Son héros. Celui qui le protège, ne le gronde jamais, lui sourit toujours. Valentin crie à tue-tête. « Aujourd'hui, j'ai 5 ans !» Et son père pédale, éclatant de rire, inventant des dodanes et hurlant. « Bon anniversaire, mon fils !» Ils sont en vacances. Une route bordée de pins sur l'île de Porquerolles. Parfois des percées de cette mer qui joue à cache-cache derrière les arbres. Puis ils débarquent sur une plage. Comme une anse décolorée, l'eau a perdu son bleu. Elle est transparente. Ils dévalent un chemin de sable blanc, jettent leurs serviettes et courent dans l'eau. Son père, sa peau hâlée, cet homme que les autres regardent. L'enfant en a conscience très tôt de cette beauté particulière. Que papa ne ressemble pas au commun des mortels. Et tous ces gens qui lui répètent « Tu ressembles à ton père comme 2 gouttes d'eau. » Alors plus tard, je serai comme lui. Valentin s'est construit ainsi, en se disant toujours ça. Plus tard, je serai comme mon père, je ferai tout pareil. Mais ça n'existe pas de faire tout pareil, parce que lui, c'est lui, et moi, c'est moi. La preuve. Il est 18 h. Ils sont tous les deux assis face à face dans la chambre que Valentin occupe lorsqu'il dort chez ses grands-parents. Un lit perché sur la mezzanine. « Pourquoi tu te fais pas soigner ?» demande l'adolescent en fixant le bout de ses baskets. « On est en 2017, pas au Moyen-Âge. » Étienne se demande à cet instant pourquoi on débarque sur Terre pour finir par vivre ce moment-là. Est-ce une punition ? Est-il en train de vivre cet instant cauchemardesque parce qu'il a largué Clotilde il y a 23 ans ? Qu'il a nagé jusqu'à la berge en lui disant qu'elle était dingue. Avoir à dire à son fils le jour de Noël « Il faut que je te parle. Je suis malade. Mais ça, tu le sais déjà. Et il y a des maladies qui ne se soignent pas. » « Ça n'existe pas, » répond Valentin au bord des larmes, les poings serrés. « Si, mon chéri, ça existe. Étienne prend les mains de son fils dans les siennes. Il se laisse faire en se mordillant les lèvres. Il aime la peau de son père. Se demande à cet instant si plus tard, il aura la barbe dure et blonde comme lui, celle qu'il laisse pousser les jours de congé. Tata, elle dit que tu veux pas te soigner, pas que tu peux pas. Tata se trompe. Je refuse de te bercer d'illusions. Je vais jamais te revoir. Étienne voudrait mentir, rassurer son fils. Mais pourquoi faire? Ils sont réunis pour se dire la vérité. Étienne ne fait pas confiance à la vérité. Il la trouve parfois sournoise. Elle contient plusieurs chemins, nuances, voies. Elle n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Il en sait quelque chose avec son métier. Mais là, maintenant, il la doit à son fils. Aujourd'hui, tu me vois comme je suis. Quand la maladie va prendre le dessus, je veux pas. Je veux partir avant. C'est très important pour toi. Bien plus important pour toi que pour moi. Tu vas te suicider? La question est si brutale qu'Étienne a un mouvement de recul. J'en sais rien, non. Non, je ne vais pas me suicider. Tata m'a donné des médicaments pour pas que je souffre. Tu as peur de la mort? Non. J'ai peur pour toi. Te laisser seule. Mais maman est géniale. Avec une mère comme la tienne, tu ne seras jamais seule. Tu m'entends, Valentin? Jamais. Alors pourquoi tu pars sans rien lui dire? Étienne ne répond pas. Il baisse les yeux. Puis les pose dans ceux de son fils. Ils se fixent, se comprennent, se sont toujours compris. Je lui ai écrit une lettre pour tout lui expliquer. Ça va être compliqué pour elle, mais je suis sûre qu'elle finira par comprendre. Tu pars tout seul? Nina sera avec moi. Et la personne que tu as vue devant le refuge tout à l'heure. Pourquoi pas maman et moi? Parce que c'est plus simple. Plus simple pour moi, plus simple pour vous. À nouveau, un long silence s'installe entre eux. En bas, au salon, les voix étouffées de la famille qui joue au tarot. C'est Valentin qui finit par reprendre la parole. Je ne dirai rien. Je te téléphonerai souvent. Je me débrouillerai pour te joindre chaque soir, quand tu seras seul dans ta chambre. Je te le jure. Je te le jure, tu m'entends? Les numéros masqués, les numéros de portable que tu ne connais pas, tu répondras à tous les appels, ok? Tu pars où? J'en sais rien. On décidera sur la route. Je veux pas que tu sentes l'odeur de l'hosto sur moi. Les médicaments, ça pue. Il serre son fils dans ses bras. Je veux que tu gardes l'odeur de ton père. Le souvenir de l'homme qui t'aime. Pas d'un malade.